convaincu que la prière change les choses? Alors, êtes-vous convaincu que la prière change les choses? Ouais. C'est pas mal bon. C'est pas mal bon, franchement, vous êtes convaincu. Eh bien, c'est ça qu'on va regarder ce matin. Et premièrement, je voulais vous dire qu'effectivement, nous, les enfants de Dieu, nous sommes convaincus que la prière change les choses. On vient de le voir, vous en êtes convaincus. Mais en même temps, on se pose une question, si la prière change les choses, comment croire que Dieu est souverain? Comment croire que Dieu contrôle tout dans les moindres détails? Bien, certains vont dire, si Dieu est souverain, il contrôle tout, donc ça ne donne absolument rien de prier. Pourquoi prier? Dieu sait tout, Dieu contrôle tout, ça ne change vraiment rien prier. D'ailleurs, j'ai même entendu ça des chrétiens me dire ceci. Ils vont dire, dans le fond, quand tu pries, tu changes rien. Ce que tu es en train vraiment de changer, c'est toi qui changes. Tu es en train de te mettre au diapason de la volonté de Dieu. C'est comme si Dieu va changer ton cœur et tu es en train de te changer. C'est toi que ça change. Tu es en train de te mettre en ligne avec la volonté de Dieu. Mais dans le fond, ça change pas grand-chose. C'est toi que ça change. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit dans les Écritures? C'est tout à fait l'opposé. Cette notion est fausse. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on voit dans les Écritures? On voit des hommes, on voit des femmes adresser des requêtes à Dieu. Ils demandent de changer des circonstances. Certaines personnes demandent que Dieu leur donne des bénédictions. Et même certaines requêtes vont carrément demander à Dieu qu'il revienne sur sa décision. Que Dieu change d'idée. Maintenant, on le voit dans la vie d'Ézéchias. Dieu révèle la volonté, sa volonté clairement à Ézéchias. Ézéchias, qui était le roi de Juda, à un moment donné est tombé malade, gravement malade. Il est dans sa chambre, dans son lit, il est mourant. Dieu envoie Ésaïe rencontrer Ézéchias et lui révéler sa volonté. Voici ce que Dieu dit par la bouche de son prophète Ésaïe. Ésaïe va voir Ézéchias et lui dit, « Ézéchias, prépare-toi, donne tes ordres à la maison, en d'autres mots, fais ton testament, prépare-toi, tu vas mourir. Tu ne vivras plus. » Ça, c'est toute une visite, hein? Comment tu vas recevoir ça, une visite comme ça, quand tu es à l'hôpital? C'est vraiment difficile. Mais Dieu révèle sa volonté par la bouche de son prophète Ésaïe. Il va voir Ézéchias, puis il dit, « Voici, tu vas mourir, ton temps est fait, ta mission est accomplie, c'est fini, tu vas mourir. » Ézéchias se tourne de côté, regarde le mur, commence à pleurer et fait cette prière. Il commence à faire une prière, puis essentiellement, il demande à Dieu de le bénir. Dieu écoute sa prière et change d'idée. Il envoie Ésaïe retourner voir Ézéchias et il dit à Ézéchias, et c'est Dieu qui dit à travers la bouche d'Ézéchias, Ézéchias lui dit, « Ézéchias, Dieu a entendu ta prière, il a vu tes larmes, puis il a décidé de te donner un autre 15 ans. » Ça, c'est fort. Dieu qui revient sur sa décision. Maintenant, si Dieu peut revenir sur sa décision, pourquoi d'autres passages dans les Écritures saintes le présentent comme un Dieu immuable qui ne change pas? Est-ce que Dieu ne change pas? Dieu ne change pas. Le même aujourd'hui, hier, Dieu ne change pas. Alors, c'est difficile. La Bible nous ordonne de prier. Elle nous presse à le faire. Elle nous donne des exemples dans les Écritures d'hommes et de femmes qui ont prié. Vous comprenez qu'il s'agit bien ici de deux aspects que l'on va voir dans les Écritures saintes. Deux aspects. Ils sont tous les deux là. Ce sont deux vérités qui existent dans les Écritures. Premièrement, Dieu est absolument souverain. Ce que ça veut dire que Dieu est souverain, c'est qu'il contrôle tout. Dieu est absolument et parfaitement souverain. Mais sa souveraineté ne fonctionne jamais de manière à réduire la responsabilité de l'homme. En même temps, il y a une autre vérité dans les Écritures saintes qui dit ceci. Les êtres humains sont des créatures responsables. Effectivement, ils peuvent prendre des décisions, soit qu'ils obéissent, désobéissent, croient, réagissent, et ils vont devoir répondre de leurs actes. Donc, l'être humain est responsable, mais la responsabilité de l'homme ne fonctionne jamais de manière à réduire ou diminuer la souveraineté de Dieu. Deux vérités que l'on voit, les deux, dans les Écritures saintes. Nous voyons tout d'abord la souveraineté de Dieu dans différents passages de l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. Par exemple, prenons juste quelques passages. Proverbe 16, versets 4 à 9. Voici ce que nous lisons. « L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Nous voyons ailleurs dans le psaume 115, « Pourquoi les nations disent-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. » Psaume 135, 6 dit, « Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. » Alors oui, les Écritures enseignent clairement que Dieu est souverain, Dieu contrôle tout. En même temps, ce que l'on voit dans les Écritures, c'est la responsabilité de l'homme et de la femme. Nous voyons les Écritures, Josué, par exemple, 24-15, qui dit « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez croire. » Choisissez. C'est à vous de choisir qui vous voulez croire. Moi, j'ai choisi. Moi et ma famille, nous allons servir le Seigneur. Alors, on voit les deux déclarations, deux propositions dans les Écritures saintes. D'ailleurs, dans certains versets, on voit les deux en même temps, dans le même passage. Par exemple, on le voit dans la Genèse, avec l'histoire de Joseph. Joseph qui est vendu à des esclaves par ses propres frères. Plus tard, Joseph est envoyé en prison, il grandit là, et puis en réputation, et là, il se retrouve en Égypte, le premier ministre des finances, contrôle toutes les finances du pays. Beaucoup plus tard, il revoit ses frères, et voici l'interprétation de ce qui s'est passé, qui sort des lèvres de Josué, de Joseph. Voici ce qu'il dit dans Genèse 50, verset 20. Il dit, « Vous aviez médité de me faire du mal. » C'est ça que vous avez fait, ça c'est votre responsabilité. « Vous avez médité de me faire du mal. » Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. En d'autres mots, Dieu était derrière tout ça et contrôlait tout, il orchestrait tout ça, ces événements-là, pour qu'aujourd'hui je me retrouve là pour sauver un peuple nombreux. On voit les deux dans le même passage. Deux réalités simultanées. Ces deux réalités ont fait couler beaucoup d'encre, surtout chez les athées. Disons-le, l'une des critiques qui vient constamment chez les athées, ceux qui ne croient pas en Dieu, c'est la souveraineté de Dieu. Effectivement, ils vont dire, écoute, vous dites, vous les chrétiens, que Dieu contrôle tout, que Dieu est souverain. Pourtant, regarde le monde, c'est plein de mal. Donc, si Dieu est souverain, si Dieu contrôle tout, alors Dieu est responsable du mal. Avez-vous déjà entendu ça avant? Raisonnement des athées. Les athées font de la grosse pub de ce temps-là, ils veulent dire aux gens, Dieu n'existe pas. D'ailleurs, je le disais cette semaine, je ne sais pas si vous avez vu ça dans la presse, à Ottawa, grosse controverse, les athées sont en train de payer la publicité sur des grandes affiches, sur des autobus qui se promènent dans la ville d'Ottawa. Avez-vous vu ça cette semaine? Écrit en gros, « Dieu n'existe probablement pas, donc arrêtez de vous en faire et profitez de la vie. » Nous, les chrétiens, ce qu'on devrait faire, c'est de mettre de l'argent sur la table, puis de payer des grosses affiches sur l'autobus qui dit ceci, « Dieu existe probablement. Arrêtez de vous en faire et commencez à profiter de la vie éternelle. » Amen? On devrait faire ça, nous autres. Mais une chose certaine, c'est que la souveraineté de Dieu revient constamment dans la critique des athées. Les athées sont très vite pour dire, « Écoute, si Dieu contrôle tout, donc il est responsable du mal. » Vous savez qu'il y a des colloques aux États-Unis de docteurs athées, puis il y a des chrétiens, docteurs, des philosophes, des savants qui se rencontrent, puis il y a des colloques, des confrontations pour prouver d'un bord que Dieu n'existe pas. Puis dans la communauté chrétienne, il y a des docteurs qui sont là, présentes, font des conférences pour démontrer que Dieu existe. Dans un de ces colloques-là, à un moment donné, un de ces chrétiens qui se promène comme ça aux États-Unis, qui fait des tournées, des conférences, et il n'est vraiment pas gêné de se présenter devant des docteurs, des grands savants de ce monde, des athées, et il va défendre la foi chrétienne. Un de ces bonhommes-là s'appelle le docteur James Greer. J'ai eu l'opportunité, il y a plusieurs années, de prendre un cours avec lui, la philosophie de la religion. Et un homme, c'est un savant, là. Et puis un jour, il est aux États-Unis, puis il est en train de faire une conférence et la façon que ça fonctionne, c'est que tu es un chrétien, tu t'en vas en avant et tu présentes une conférence, tu présentes ta thèse que Dieu existe. Tu prouves que Dieu existe. Les docteurs athées, après ça, s'en vont en avant, ont 20 minutes pour critiquer ta position puis ta présentation. Après ça, ils s'en vont s'asseoir et le chrétien peut revenir en avant et il a un autre 5 minutes pour se défendre. James Greer s'en va présenter sa thèse et tout ça, Dieu existe et tout ça. Fait, alors, il s'en va s'asseoir, puis là, les athées s'en reviennent. Et effectivement, qu'est-ce qu'ils choisissent? La souveraineté de Dieu. Alors, ils s'en vont en avant, puis ils s'en vont, ils regardent la foule, effectivement, ils confrontent la thèse de Dr. Greer, et voici ce qu'ils disent. Ils disent, écoutez, vous autres, les chrétiens, vous croyez que Dieu contrôle tout. Vous, les chrétiens, vous croyez en un Dieu souverain. Dieu est au-dessus de tout, il contrôle tout. Alors, Dr. Greer, oui, on croit ça. Deux, première déclaration, deux, il y a du mal dans le monde. Êtes-vous d'accord? Oui, on croit ça. Donc, et ça c'est la logique, hein? Vous savez la logique, on appelle ça les syllogismes. Une proposition, deuxième proposition, tu tiens une conclusion. Alors, première proposition, Dieu est au-dessus de tout, il contrôle tout, il est souverain. Deux, il y a du mal dans le monde. Donc, Dieu est responsable du mal. Et là, mon ami pensait, eux autres, qu'ils avaient gagné la bataille. Faites, tiens, Dieu n'existe pas. Ça, ils s'en vont s'asseoir. James Greer se lève, s'en va en avant, et il dit ceci. Dieu ne peut pas être responsable du mal. Parce que le mot responsable, et vous savez, en logique, dans ces discussions-là, si vous démontrez qu'un des termes est faux, vous venez faire tomber l'argument. D'accord? Alors, il s'en va en avant, il dit ceci. Dieu ne peut pas être responsable du mal. Parce que, si vous regardez dans le dictionnaire, le mot responsable veut dire qui est responsable est celui qui doit rendre des comptes à quelqu'un d'autre. Honnêtement, là, c'est valide. Comme argument, en logique, c'est valide. Et là, t'es bouche bée, c'est pas quoi dire, c'est valide. Si, premièrement, la première déclaration dit que Dieu est au-dessus de tout, il ne rend pas des comptes à personne. Dieu ne peut pas être responsable du mal. Gloire à Dieu pour des gars comme Dr. James Greer, qui ont le culot de se présenter devant ces bonhommes-là. Mais ces deux réalités ne sont pas incompatibles. Oui, Dieu est souverain et il contrôle tout. Donc, la question pour nous qui s'intéressons en ce moment à la prière, on veut se poser la question, donc est-ce que ça vaut la peine de prier à ce moment-là? Si Dieu est souverain, si Dieu contrôle tout, dans les moindres détails, s'il décide du nombre de cheveux qui va tomber aujourd'hui, puis il en tombe pas mal, est-ce que ça vaut la peine de prier? Ça donne quoi? J'ai entendu des chrétiens me dire, ici même à Longueuil, « Ah, Normand, on n'a pas vraiment besoin de prier. Pas vraiment besoin, parce que Dieu connaît tout. Il sait tout d'avance. Pourquoi on prierait? » Bon, OK. Pour certains chrétiens, ils n'ont pas besoin de prier. Dieu sait tout. Pourtant, l'apôtre Paul prie. Il prie. Il ne gêne pas de prier, l'apôtre Paul. Et ce matin, on va voir justement dans une de ces lettres, Éphésiens, j'aimerais vous encourager à tourner au premier chapitre de la lettre aux Éphésiens, où on va voir l'apôtre Paul prier, mais ce que nous allons apprendre à travers la prière de Paul, c'est comment prier un Dieu souverain. Comment on prie un Dieu qui est souverain? Alors, Paul va nous apprendre comment prier conformément à la souveraineté de Dieu. Et sa prière va nous révéler deux aspects de cette souveraineté-là. Alors, Éphésiens, chapitre 1, verset 15, et on va lire jusqu'au verset 23. C'est la prière de Paul. Il dit ceci. « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous et je fais mention de vous dans mes prières. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute dénomination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Comment on prie un Dieu qui est souverain? Bien, ce que l'on voit dans la prière de Paul, c'est que parce que Dieu contrôle tout, parce que Dieu est souverain, nous pouvons remercier le Seigneur pour sa grâce agissante dans la vie des chrétiens. Je ne sais pas si vous avez remercié le Seigneur dernièrement pour la grâce de Dieu qui agit dans la vie des gens autour de vous, dans la vie des chrétiens. Paul le fait. Paul rend grâce, versets 15 et 16. Il dit, « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. » Paul ayant entendu parler de leur foi et de leur amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu dans cette ville d'Éphèse, voit dans leur conversion un exemple qui est tout à fait magnifique de la grâce souveraine de Dieu dans la vie de ces chrétiens-là. De voir comment Dieu a orchestré des événements dans la vie de ces gens-là pour qu'ils viennent à la foi, qu'ils grandissent, qu'ils démontrent de l'amour les uns pour les autres. Paul est simplement a le cœur plein de reconnaissance envers Dieu, de voir ces signes de grâce, ces manifestations de la grâce qui agit dans la vie des autres. Paul ne cesse de remercier le Seigneur. C'est Dieu seul qui, dans sa grâce souveraine, les a emmenés au salut et continue d'agir dans leur vie. Alors, Paul rend grâce à Dieu. Et mes chers amis, faut remplir quelques minutes de notre prière, notre temps de prière et de dévotion et de culte personnel à remercier Dieu de ce que des gens sont venus au Seigneur parce que c'est juste un témoignage puissant de la grâce de Dieu, ça, qui les a amenés au salut. Paul est convaincu que sans la puissance de Dieu, ces personnes ne se seraient jamais converties. Sans Dieu, ces chrétiens n'auraient jamais pu manifester cette confiance, cette fidélité et leur amour. Et on doit rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans la vie des autres. Si nous voulons vraiment suivre l'exemple de Paul, réjouissons-nous et louons Dieu pour ce qu'il fait dans la vie des chrétiens, ici et ailleurs, comme Paul le fait à l'endroit des chrétiens dans la ville, dans une autre ville, les villes d'Éphèse. On entend toutes sortes de témoignages de gens qui viennent au Seigneur. Ailleurs, on entend nos missionnaires nous raconter comment Dieu est en train de faire une œuvre. Ailleurs. Il faut louer Dieu, bénir Dieu pour ça. Suivons l'exemple de Paul. Inondons nos temps de prière, d'action de grâce pour cette œuvre de grâce agissante dans la vie des autres personnes qui sont ailleurs. Par exemple, cette semaine, j'ai reçu l'appel de Irv Gunks qui m'a appelé, puis il s'en va en automne. Vous savez, il a été plusieurs années au Pakistan, et il s'en va cet automne en Inde. Il me racontait un peu, me décrivait un peu ce réveil spirituel qui est en train de se passer au nord des Indes, au sud de Népal. Il me racontait l'histoire d'un dénommé Madan Singh Rana, responsable de 30 ouvriers à temps partiel et 14 à temps plein. Et un gros réveil des milliers d'hindouistes qui se convertissent et viennent à Jésus-Christ. Ils sont rendus avec 171 petits groupes sur semaine. 171 d'anciens hindouistes qui se sont convertis, qui se rencontrent maintenant sur semaine pour étudier la Bible. Imaginez, c'est rendu, le phénomène est tellement puissant, tellement de gens qui se convertissent, qui passent de l'hindouisme à Jésus-Christ, à l'Évangile, que ce madame a été jeté dehors, expulsé de sa maison, et on se donne le mot, aucun hindouiste accepte de lui louer un logement, et là, il est dans la rue. Priez pour lui, madame. Les hindouistes ont peur de lui. Phénoménal ce qui se passe dans la vie des gens, comment Dieu a décidé d'envoyer sa grâce, d'user de grâce qui agit dans la vie de ces hindouistes et change leur cœur pour qu'ils viennent à Christ. C'est incroyable. Et on peut bénir Dieu pour ça. Si les anges du ciel se réjouissent pour un seul pécheur qui vient à Jésus-Christ, il y a tout lieu pour nous de s'attendre à ce que les chrétiens rendent grâce à Dieu pour la même raison. Vrai? Les anges se réjouissent et on sait qu'il y a des gens qui se convertissent à tous les jours à travers le monde. Donc les anges sont continuellement en action de grâce et en réjouissance dans le ciel à voir ces nombreuses conversions. Et ça, c'est un spectacle de la grâce agissante de Dieu dans le cœur des gens. Et ça se passe ici autour de nous, des gens qui viennent à Jésus-Christ. Vrai? Et j'ai demandé justement à Denis de venir, Denis, un charmant couple, levez-vous tous les deux, parce qu'Hélène, j'aimerais ça te présenter aussi à l'Assemblée, viennent de s'ajouter à l'Église. Alors, Denis et Hélène, la tour, on vient de s'ajouter, puis vient-t'en Denis. Merci, Hélène. Et j'ai demandé à Denis de venir raconter comment Dieu, justement, l'a conduit à lui. Merci, Denis, d'être venu. Hey, c'est vrai, tu vas avoir besoin d'un micro, toi, là. Parfait?
Oui.
Ah, tiens, je vais te donner un... Ça te prend un...
Non, c'est bon comme ça.
Tu vas te donner?
Du moins, okay. Tu m'as entendu. Merci. Comme mentionné, ça fait quelques semaines qu'on est ici par l'entremise de Paul et Monique de Grand Maison que Dieu avait orchestré une rencontre tout à fait divine. Pour moi, un témoignage, je dis le mien autant que le vôtre, je pense que chaque témoignage est agréable à entendre. Pour plus le mien que le... puis il est toujours d'actualité, même si ça fait de nombreuses années. Et puis, pour ceux qui n'ont pas connu le Seigneur, on espère toujours qu'un témoignage amène une personne à continuer son cheminement vis-à-vis de Dieu. C'est un peu ça l'objectif ce matin. Moi, ça a eu lieu à ma deuxième année d'université. L'été d'avant, j'avais apporté dans l'Ouest canadien. Et puis, il y avait un échange, la première année de l'échange, Québec-Californie. Fait que juste le titre déjà, c'était pas mal attrayant. Fait que je postule. Et puis, finalement, c'était l'été où j'ai eu un bon emploi d'étudiant. Fait que j'ai eu dans une grande entreprise. Puis, j'étais celui qui a été sélectionné à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Fait que là, je me suis retrouvé à Fresno, qui est entre Los Angeles, San Francisco, Los Angeles, d'Inter. Là, je me retrouve là en Californie pour une année d'études. Et puis, le premier parti du programme, quand je suis arrivé là-bas, le coordonnateur du programme, il avait déjà attitré quelqu'un avec moi pour une semaine pour juste tout settle down, me retrouver un endroit. La personne était située juste en face du campus. C'était une rue, on rentrait dedans, puis c'était comme un stationnement, là. Puis il y avait des blocs de des unités, deux étages d'eau tout autour de tout ça. C'était très bien comme endroit. J'étais là pour une semaine. Fait que la première démarche qu'on a fait, on était à l'université, on a cherché sur le Babillard une place que vous pouvez m'héberger. Il y avait une pancarte, c'est marqué « Christian Roommate Wanted ». Je m'accroche un peu là-dessus, mais j'ai accroché parce qu'en dessous, c'était à la même adresse que où j'étais, à deux appartements après. « Hey, c'est juste à côté de toi, je vois l'adresse, Christian Roommate Wanted ». On ramasse ça le soir, là, que mon compagnon l'appelle, puis je vais voir le gars. Avec sa première question, il dit « Are you a born-again Christian? » Born again Christian. Là, j'étais tout mêlé. J'essayais de traduire ça. Ça marchait pas trop.
Dis-le en français, dit, Denis. Dis-le en français.
Es-tu né de nouveau? Es-tu un chrétien né de nouveau? Fait que là, je dis, ben, je suis catholique. Il dit, toi, tu es à l'église, à Noël. Et tu crois-tu en Dieu? Ben, je crois pas au Père Noël, mais je sais qu'il y en a de supérieurs. Fait qu'il me pose 3-4 questions, ça va comme ça. Finalement, il dit, t'es bienvenu. Fait que ça donnait bien, il est bien situé, puis ça rentrait dans mon budget aussi. Fait que gloire à Dieu pour ça. Mais là, il me dit, le mercredi, là, j'étais installé, il dit, le mercredi, on dit, on a Bible study. À l'appartement. Do you mind? Il dit, oui, ça me dérange. Moi, je suis pas là-dedans, pas en tout le monde. Fait que finalement, je quitte. Le mercredi, je m'en vais plutôt à la bibliothèque. Mais le Seigneur avait prévu, il y avait des gens qui priaient le mercredi soir pour ça. Puis ses compagnons, le groupe du mercredi était super gentil, il y avait plein de jeunes. Puis j'ai croisé à l'université, puis il était gentil avec moi. Je parlais en anglais tout croche, mais il allait me voir, il m'invitait à manger avec eux, puis ainsi de suite. Fait que finalement, c'est pas, j'étais un peu gêné à dire, mais finalement, j'ai décidé de rester le mercredi soir pour apprendre mon anglais. Ça me donnait la chance de parler, puis là, on a appris des nouveaux termes. Au lieu de pécher, on parlait de sin. Au lieu de prière, on parlait de prayer. Fait que ça a changé le terme. Fait que, puis là, je me suis dit, « Tintin, je suis là aux États-Unis pour un an. Allons-y, la culture américaine. » Cette histoire-là de Jesus Freak, on va le faire un bout de temps, voir que ça. » J'avais remarqué le samedi, dans les journaux, il y avait une section de cinéma, mais il y avait une section de dimanche aussi, c'était des églises qui s'annonçaient, ça s'annonçait, là, « The light is here », le chemin, ainsi de suite. J'ai dit, « Tabarouette, ça a l'air organisé, cette affaire-là. » Fait que tous les dimanches, j'ai appelé une église, le samedi, j'ai appelé une église, j'allais visiter des églises. Là, mon compagnon, il capotait des bouts, il était inquiet, tu sais, je me trouvais à toutes sortes d'endroits bien bizarres. Mais finalement, j'ai commencé à comprendre une partie du Corinthiens 13, puis un Jean 4, où ce que la pierre angulaire, tu sais, parce qu'il n'y a pas d'autre fondement que celui que j'ai établi, à savoir Jésus-Christ. Là, j'ai commencé à comprendre ça. Et puis, ensuite, il y a plein d'événements, j'ai découvert qu'il y avait des Christian books, des Christian bookstores, ou comme on a ici, là, la musique chrétienne, la musique rock chrétienne. Alors là, ça m'avait pas mal accroché, ça. Fait que, puis, les compagnons, ils continuaient à prier pour moi le mercredi. Moi, je le savais pas, évidemment. Il m'avait fait venir une Bible en français pour moi, tout édicacé, ainsi de suite. Il était très attentionné. Puis moi, je m'en allais, me promenais d'un bord puis de l'autre, sans trop me soucier de ça, tu sais. À un moment donné, tranquillement, j'ai fait un cheminement que le Seigneur a permis. Il y a eu, comme le pasteur mentionnait tantôt, il y a eu une Christian Week au campus. Puis, il y avait un débat entre évolutionnistes et créationnistes. Puis, j'étais allé voir ça. Puis, ça... Il y avait un spectacle de magiciens, la musique, en tout cas. J'ai fait un cheminement à l'intérieur de ça. Je pourrais, comme notre frère hier a mentionné, je pourrais vous compter ça pendant une heure et demie facilement, là, mais j'étais limité en termes de temps. Mais finalement, il y a un soir, dans tout ce cheminement-là, tu te poses des questions, tu es exposé à toutes sortes de choses, puis les églises, c'est super bien organisé là-bas. Je me souviens d'aller à Disneyland avec eux autres, des voyages en montagne, toutes sortes d'activités. Il y en a une, j'aimais bien les églises parce qu'il y avait un pique-nique puis du volleyball après, tu sais. Mais t'échangeais à l'intérieur de ça, puis tu fais un cheminement, t'échanges, puis là, tu parles en anglais, puis j'ai commencé à catcher des choses. Puis, mais je comprenais pas tout. Puis, un des spectacles, à un moment donné, il y a un des musiques rares que j'aimais, il y avait Petra, ceux qui l'ont connu. Il y avait aussi Second Chapter of Acts, que j'ai emmené ici, vinyle, fait que ça vous dit, c'est quelques années, hein. Donc, on va voir ce spectacle-là. Puis à la fin du spectacle, c'était une chanson plus douce, fait se tenir par la main. Et puis, le leader, il dit, il fait un appel. Puis tout ce qu'il demande, il dit, si vous croyez en Jésus, serrez la main de votre voisin. Là, je dis au Seigneur, je comprends rien. J'ai pas une compréhension complète. Mais je pense que c'est ça, faut que je fasse un pas de foi. Il dit, je crois en ton fils. Il dit, oui. Fait que là, j'ai serré la main de mon compagnon. Fait que c'était ma conversion. Puis là, mon compagnon à côté de moi, il a serré la main de tout le monde autour de lui. Fait que après ça, ben, je veux dire, le petit groupe était autour de moi. Puis un des éléments, c'est qu'on allait backstage en arrière, puis on rencontrait les musiciens, puis ils nous donnaient du matériel, et ainsi de suite. Donc, c'était un peu comme ça, je pourrais vous en compter un peu plus, mais c'était un peu comme ça ma conversion, qu'il y avait un groupe derrière, que ça m'a pris bien du temps pour réaliser qu'il y avait des choses, que Dieu était souverain dans tout ça, parce que j'étais vraiment pas ouvert à ça. Mais le Seigneur a prouvé en toute chose. Puis quelques semaines plus tard, à un moment donné, mon frère parlait de ça hier à l'effet de masse, là. J'ai dit quelques semaines plus tard, il y a eu un appel, il y a eu lieu à l'église, puis on était assis, puis le pasteur a dit ceux qui ont pris une position, le Seigneur, levez-vous debout. Il n'a pas demandé à mon avant, il m'a demandé de se lever debout. C'est ce que j'ai fait, j'ai reconfirmé, j'ai dit non, c'est plus un effet de spectacle, là, qui est à moi, là. Je me convertis, je t'accepte, Seigneur Jésus, comme mon Seigneur, sauveur personnel. Puis à toi, je mets ma confiance, je me lève debout. Puis après ça, il nous a avisé qu'il y avait un groupe qui nous ramassait après. Fait qu'on était entourés, puis c'était une bénédiction. Puis je remercie le Seigneur aujourd'hui encore pour ça.
Amen. Amen, c'est bon. Merci beaucoup, David.
Ah, c'est bon, hein? Dieu est allé chercher en Californie. C'est pourquoi pas au Québec? Hein? Oui. C'est magnifique de voir comment Dieu va s'y prendre, hein, pour aller chercher une personne. Dieu l'aimait et il voulait aller le chercher. Il est allé le chercher en Californie. C'est là qu'il est allé toucher ton cœur. Hein? Il aurait pu mettre un chrétien ici à Montréal. Non, c'est en Californie. C'est ça que tu avais besoin. Dieu le savait. On peut certainement louer le Seigneur, hein, pour sa grâce qui va agir comme ça, qui va orchestrer des événements dans notre vie pour nous emmener à lui. Alors, c'est beau. Et c'est la première chose qu'on voit dans la prière de Paul. C'est une prière qui est en conformité avec la souveraineté de Dieu. Va remercier le Seigneur pour ses signes de grâce comme ça. Sa grâce qui est agissante dans la vie des autres. Deuxièmement, ce qu'on voit, un autre aspect de la souveraineté de Dieu dans la prière de Paul, parce que Dieu contrôle tout, parce que Dieu est souverain. Paul intercède pour que Dieu réalise son plan dans la vie des chrétiens. Verset 17. Alors, il est en train de prier et il continue. Verset 17, voici ce qu'il dit. Il dit, « Afin, et c'est ce qu'il demande, « afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne. » Voici ce qu'il demande, voici ce qu'il fait. « Je demande qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Dans le fond, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Ceci est très intéressant parce que c'est très étrange. Il faut s'habituer. Il y a peut-être une cassette à changer ici. On a peut-être besoin d'ajuster des choses dans notre prière. Essentiellement, parce que Dieu dit qu'il va nous sanctifier par son esprit, Paul prie que Dieu nous sanctifie. Voyez-vous l'idée? Parce que Dieu a dit qu'il allait le faire, on prie qu'il le fasse. Parce que Dieu avait annoncé la fin de l'exil à Babylone, le prophète Daniel prie pour la fin de l'exil de Babylone. C'est très important qu'on puisse capter ça, là, ici. Contrairement aux chrétiens qui vont dire « on n'a pas besoin de prier parce que Dieu sait tout », c'est exactement le contraire que l'on voit dans la prière de Paul. Parce que Dieu dit qu'il va le faire, alors on prie qu'il le fasse. Et on le voit dans le cas de l'exil, parce que Jésus dit « je m'en vais vous préparer une place et je vais revenir pour vous chercher », les chrétiens peuvent s'écrier et dire « Maranatha, Seigneur, viens, Seigneur Jésus ». Parce que Dieu dit qu'il va nous sanctifier, on prie qu'il nous sanctifie. Parce que Dieu a déclaré son intention d'accorder aux chrétiens les richesses de sa grâce, Paul prie que les chrétiens grandissent dans la connaissance et réalisent tout ça. Que demande Paul? Premièrement, il demande de mieux connaître. Connaître sa volonté, connaître Dieu. Maintenant, comment on connaît Dieu? C'est intéressant de voir que la requête qui fait surface en premier de toutes les requêtes que Paul aurait pu demander, la première qu'il demande en haut, c'est la connaissance. Connaître, mieux connaître. Connaître Dieu, connaître ses richesses, les richesses qui appartiennent aux chrétiens. Et là, il va étaler certaines requêtes. Comment parvenir à une meilleure connaissance de Dieu? Bien, c'est en priant. C'est ce que Paul fait. Paul prie. Et il demande à Dieu de nous aider à comprendre les bénédictions et les richesses des chrétiens. Paul est en train de dire dans sa prière, « Ouvre nos yeux, Seigneur, et fais-nous saisir la portée des richesses des chrétiens. » Et c'est quoi ces bénédictions-là? Quelles sont ces richesses? Premièrement, on a besoin de comprendre l'espérance qui vient avec le salut. L'espérance qui vient avec le salut. C'est ça que Paul est en train de dire. Ouvre nos yeux et aide-nous à comprendre l'espérance qui vient avec le salut. Voyez-vous, chez Paul, sous la plume de Paul, lorsqu'il y a appel, il y a toujours de l'effet et un fruit après. En d'autres mots, chez Paul, parce qu'il nous a appelés, il nous a sauvés. D'accord? Un appel ne reste pas sans conséquence, sans fruit, sans effet chez Paul. Et ce qu'il est en train de dire, c'est ceci. Aide-nous à voir l'espérance qui vient avec l'appel du salut. Aide-nous à voir tout ce qui vient, les richesses qui viennent avec le salut. C'est ça essentiellement ce qu'il est en train de dire. Et notre espérance, c'est quoi? C'est aide-nous à voir, à saisir tout ce qui n'est pas encore réalisé de notre salut, mais ce que ça s'en vient. Par exemple, pour nous, ça va être la Nouvelle Jérusalem, la Nouvelle Terre, les richesses qu'on va avoir, la communion qu'on va avoir dans l'éternité, passer l'éternité avec Dieu. Toutes ces belles choses. Aide-nous à saisir tout ce qui vient avec le salut. Nous avons reçu beaucoup de choses au salut, le pardon de nos péchés, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va avec une communion éternelle dans le ciel avec Dieu. Un jour, nous allons être présentés devant Christ sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais dignes de Dieu et irréprochables. Ésaïe chapitre 5. Toutes ces choses s'en viennent, ça vient avec le salut. Paul demande donc à Dieu qu'il nous montre les bénédictions qui nous attendent. Premièrement, l'espérance qui vient avec le salut. Ma deuxième bénédiction, donne-nous de comprendre la richesse des chrétiens. Verset 18, « Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous puissiez saisir quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. » Dieu nous voit à travers Jésus-Christ. Dieu nous considère les siens avec les mêmes yeux qu'il considère son Fils. En d'autres mots, Paul veut que nous sachions que nous avons un grand prix aux yeux de notre Dieu. Et la raison est Jésus-Christ. Nous avons été identifiés à Christ. Nous avons été choisis en Jésus-Christ. Et nous sommes l'héritage de Dieu. Et si on garde constamment cette vision en tête, je peux vous dire une chose, on va s'efforcer de mener une vie qui est digne de cet appel-là. Plusieurs richesses nous attendent au ciel, parce qu'elles ont été acquises par Christ. Et c'est la raison pour laquelle Paul veut qu'on saisisse ces bénédictions-là. Paul demande donc à Dieu de montrer aux chrétiens les bénédictions qui les attendent. Mais troisièmement, on a besoin de comprendre la grandeur de la puissance que Dieu met en œuvre en notre faveur. Verset 19 dit, « Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? » La Bible en français courant le rend comme ceci, « Quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants? » Réalisez-vous que la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ est disponible? Maintenant, quand on pense à la puissance de Dieu, à quoi on pense? On va penser à la création, par exemple. C'est tout à fait magnifique. On va penser à lorsque Dieu a séparé les eaux avec Moïse. Il y a des miracles dans l'histoire de la Bible qui nous frappent plus que d'autres. Et on est porté à se questionner, quel est le miracle le plus impressionnant où Dieu a pris plus de doses de puissance? Et on pense comme ça. Mais Paul ne pense pas comme ça. La puissance de Dieu, c'est la puissance de Dieu. La façon que Paul le présente, l'angle qu'il va le présenter, c'est où est-ce que la puissance de Dieu a été la plus révélatrice, la plus glorieuse et la plus puissante, dans ce sens-là. Et c'est définitivement avec Jésus-Christ. Si où a été la plus glorieuse, où est-ce qu'elle a manifesté? Où est-ce que la puissance de Dieu a manifesté sa gloire? C'est certainement avec Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, « Quelle est envers nous, verset 19, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force? Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. » Toute autorité, toute puissance, toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Voyez-vous, la manifestation la plus glorieuse de la puissance de Dieu, c'est Jésus-Christ. La révélation la plus glorieuse de la puissance de Dieu est la résurrection de Christ, premièrement, dit Paul. Et la puissance de Dieu que Paul veut que les chrétiens connaissent est celle qui a agi dans la résurrection de Jésus-Christ. On parle ici évidemment de la victoire sur la mort, sur le péché. Lui-même, l'apôtre Paul va dire plus loin, de vouloir expérimenter la puissance de la résurrection. Et c'est ça qu'il est en train de prier ici, là. Non seulement que la révélation la plus glorieuse de la puissance de Dieu a eu lieu à la résurrection de Jésus-Christ, mais à son exaltation aussi. Paul prie que l'on connaisse encore mieux et qu'on fasse l'expérience de la puissance qui a non seulement ressuscité Jésus-Christ, mais cette même puissance qui a élevé Jésus au-dessus de tout nom. Qu'on en fasse l'expérience dans notre vie. C'est la même puissance qui fait de nous un citoyen du ciel. Paul va dire au chapitre 2 qu'il nous a ressuscités ensemble, a fait de nous un membre de la citoyenneté céleste. Alors, la puissance de Dieu s'est manifestée glorieusement à la résurrection, à l'exaltation de Jésus-Christ. Mais non seulement ça, la puissance que Jésus exerce sur toute chose pour son Église. Et il va continuer en disant, verset 22, « Il a tout mis sous les pieds de Jésus-Christ, qu'il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout dans tous. » Jésus domine toute chose. Il est le chef, la tête de l'Église. Et toute la souveraineté de Dieu s'exerce à travers Jésus-Christ. Toute sa puissance souveraine vise le bien de l'Église. Voyez-vous? Aucun événement, même les moins importants, n'échappe à la souveraineté du Seigneur Jésus-Christ. Tous nos jours, notre santé, nos maladies, nos joies, nos peines, nos victoires, nos larmes et les réponses à nos prières, tout ça, rien n'échappe à la souveraineté de Jésus-Christ. Jésus est au contrôle de notre vie. Et ce que la prière de Paul, la façon qu'il prie un Dieu souverain, c'est ceci. Remercions le Seigneur pour sa grâce qui agit dans ma vie et dans la vie des autres croyants. Et deuxièmement, prier que Dieu réalise son plan dans ma vie et dans la vie des chrétiens avec la même puissance qui a ressuscité Jésus, glorifié le Christ et qui agit aujourd'hui dans l'Église. Voyez? Prions, Seigneur. Eh bien, Seigneur, tu nous as dit que tu allais nous transformer. Donc, nous te prions que tu puisses nous transformer. Tu as dit que tu étais pour t'occuper de chacun de tes enfants. Alors, nous prions que tu t'occupes de chacun de tes enfants. Tu as dit qu'il y avait des gens ici à Longueuil qui avaient besoin du salut et que tu es en train de préparer des cœurs pour qu'ils viennent à toi. Donc, Seigneur, nous te prions qu'il y ait des conversions ici à Longueuil. Tu as dit que tu veux bénir ton Église de Longueuil. Alors nous te prions, Seigneur, ce matin, que tu puisses bénir cette Église. Car nous savons que tu es souverain, tu es puissant, tu disposes cette puissance pour le bien de ton assemblée, de tes enfants et de ton Église, pour que nous puissions rassembler davantage à Jésus-Christ. Ô Seigneur, nous te bénissons. Nous te remercions pour ce que tu as fait dans notre vie. De tes signes de grâce que nous voyons dans notre vie, comme on a vu dans la vie de Denis, comment tu as orchestré des événements pour le conduire à toi. Merci Seigneur, notre cœur est reconnaissant envers toi pour tous ceux qui sont ici ce matin et qu'un jour tu es venu dans leur vie, toucher leur vie et leur cœur. Amen.